Avant de vous laisser profiter de ce nouvel épisode, j'ai une confession à vous faire. Ce podcast que j'aime tant ne m'appartient pas vraiment. Si je pose ma voix, recherche des invités, enregistre et monte à des heures improbables de la nuit parfois, ça reste le projet d'Allah. C'est sa volonté, son décret. Je travaille pour lui et grâce à lui. Alhamdoulilah. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que j'ai réalisé il y a peu que je ne devais m'approprier ni le succès du podcast, ni ses réalités. Aujourd'hui, j'assume le fait de vous solliciter parce que je sais que nous avons tous à y gagner. Nous avons tous l'opportunité d'œuvrer pour ce beau projet et Inch'Allah en récolter les fruits ici-bas et dans l'au-delà. J'ai officiellement ouvert un Patreon pour permettre à ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de m'aider à le financer. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Patreon, c'est une plateforme qui aide les créateurs de contenu, et notamment les podcasteurs comme moi, à pouvoir vivre de leur activité, mais surtout à la développer. Le principe est de souscrire à une offre mensuelle que vous pouvez résilier à tout moment. Grâce à une contribution de 5 euros par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire. Il sera plus court, plus chill, autant dans le ton que dans le montage, mais sera toujours animé avec la volonté d'avoir quelque chose à vous apporter, Inch'Allah. Mais au-delà de cet épisode supplémentaire, contribuer à financer le podcast, c'est aider considérablement cette émission à perdurer. Vous contribuez à un changement énorme de mentalité qui doit s'inscrire dans la durée si on souhaite y arriver, Inch'Allah. Réapprendre à s'aimer à Allah, Inch'Allah, pour l'éternité, ça prendra des années. Et sans sa volonté, sans vos doigts illimités et sans un soutien financier, cette initiative ne saurait perdurer. Je vous mets le lien pour vous abonner dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, votre écoute, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de compter votre gentillesse, vos prières et vos dons dans votre balance de bonnes actions, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté et laisse place à l'épisode du jour. Bonne écoute.
Ce qu'il faut comprendre en tant que frère et sœur, c'est une obligation, c'est un devoir de s'entraider. Et je reviens sur l'éducation de la Sira Nabawiya qu'il faut lire et qu'il faut comprendre réellement ce que c'est les valeurs islamiques, notamment dans le monde du mariage. Je pense qu'il y a un manque, il y a réellement un manque.
Quand il y a des critères qui nous semblent importants, qu'on abandonne, on a tellement mieux. Et on le sait, quand on lit le Coran, Allah il nous dit.
On veut le parfait et la parfaite. Sauf que le parfait, c'est Allah. Et on n'est pas des anges, on est des créatures d'Allah.
Vraiment, si on veut, je pense, réussir, se marier et réussir son mariage, faut prendre Netflix et faut le jeter à la poubelle.
Il y aurait environ 1 million de célibataires musulmans, en France uniquement. Oui, je sais, ce chiffre est pour le moins perturbant. J'ose même dire effrayant. À ce constat s'ajoute une réalité que personne ne saurait nier. Nous vivons une époque où les hommes et les femmes n'ont jamais eu autant d'opportunités de se rencontrer. Dès lors, il est légitime de se demander pourquoi est-il si compliqué de se marier? À qui la faute? À pas de chance ou à trop d'exigences? Comme d'habitude, les réponses se trouvent dans la nuance, le partage d'expériences et surtout un peu de science. Pour éviter de tomber dans les écueils habituels où les célibataires s'entendent répéter que tout ça c'est uniquement de leur responsabilité, j'ai invité 2 femmes qui consacrent énormément de leur temps à aider nos frères et sœurs célibataires à sortir de cette galère. Bénévoles dans une mosquée située en Île-de-France, Zahara et Yasmine font matcher les profils, organisent des rencontres et ont à cœur de faire se marier les frères et les sœurs. Durant cette discussion très franche, où nos points de vue divergent parfois, elles expliquent pourquoi. Pourquoi c'est compliqué. Pourquoi la responsabilité de chacun, y compris des personnes mariées, est engagée. Pourquoi et comment le manque de confiance en Allah cause de profonds dégâts et fait perdurer le célibat chez certains, voire beaucoup, de nos frères et sœurs en Allah. Cette discussion n'est pas aisée parce que personne ne souhaite heurter des âmes déjà très peinées. Mais exposer les faits, c'est un pas nécessaire pour avancer, et je l'espère, aider des centaines de milliers de célibataires à s'ouvrir, à réfléchir, à changer, et Inch'Allah, à se marier. Yasmine et Zahra ont souhaité rester anonymes. Je ne pourrai donc pas vous communiquer un moyen de les contacter comme j'ai l'habitude de procéder. J'espère que vous le comprendrez. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de notre échange et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Je suis ravie de vous recevoir, Zahra et Yasmine, aujourd'hui, parce que c'est un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Je me faisais la réflexion il y a quelques jours et je me disais, je pense que les célibataires, c'est la population dont je me soucie le plus, mais profondément. C'est-à-dire que il y a des personnes, elles sont plus sensibles aux enfants, il y a des personnes qui sont plus sensibles aux personnes âgées. Et ce qui est formidable, c'est qu'à ce printemps-là, il permet que tout le monde s'occupe d'une population en particulier. Et je pense que ce qui nous réunit toutes les trois, c'est que les célibataires musulmans nous importent beaucoup. On va comprendre pourquoi dans le cadre de notre conversation. Avant de commencer, j'aimerais quand même faire un disclaimer parce que on va donc beaucoup parler des célibataires musulmans et j'aimerais vraiment qu'on puisse préciser avant d'entrer dans le vif du sujet que on n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur les célibataires en disant un vous êtes célibataire et deux c'est de votre faute. On n'est pas non plus là pour faire un duel entre les frères et les sœurs. Il y aura à dire sur les deux. Il faut qu'on essaye d'être transparent, mais je suis certaine que on a tous à cœur de rester très factuel.
Parfait.
Donc avant d'aller plus loin, je vais vous laisser vous présenter. J'aurais aimé s'il vous plaît que vous nous indiquiez vos âges respectifs, Zahra et Yasmine, et puis ce qui a fait que vous ayez eu envie de vous lancer dans cette initiative.
D'accord. Je commence.
Vas-y.
Donc moi c'est Yasmine, donc j'ai 34 ans, je suis d'origine sénégalaise. Je travaille dans les ressources humaines et du coup je suis bénévole dans un projet d'aide au mariage pour les célibataires. Voilà.
Et moi c'est Zahra, j'ai 54 ans, j'ai deux enfants, mariés, j'ai arrêté le travail depuis 10 ans pour me concentrer sur les aspects sociaux pour notre communauté.
Très bien. Et qu'est-ce qui vous a donné envie toutes les deux de créer cette initiative? Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, vous avez créé une initiative d'aide au mariage comme des mises en relation entre des frères et des sœurs qui souhaitent se marier. Alors Allah. Depuis quelques années, il me semble. Et moi, ma question, c'était pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait? Parce que notamment, Zahra, toi, t'es mariée, t'as tes enfants. Toi, Yasmine, t'aurais pu te dire, bah ça va, moi, je suis déjà occupée en train de chercher pour moi. Je peux pas m'occuper de tout le monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous occuper de cette problématique? Parce que c'en est une.
Alors, moi, je vais prendre la parole. Ce qu'il faut comprendre en tant que frère et sœur, c'est une obligation, c'est un devoir de s'entraider. Ce n'est pas le fait de se dire, voilà, je me concentre, moi, personnellement, si je suis mariée, j'ai le devoir de s'entraider. Ça veut dire, c'est clairement écrit dans le Coran, on est des frères et sœurs. Quand on parle de frères et sœurs, ça veut dire qu'on est obligé de se préoccuper de cette communauté. Sur tous les aspects, rassemblement, entraide, partage et écoute. Il s'avère qu'aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est qu'on a de plus en plus beaucoup de célibataires. L'idée, elle est venue, après c'est inné ou pas inné, depuis pas mal de temps, même de mes 20 ans et de 30 ans, quand je venais juste de me marier, toutes mes copines pas mariées, j'ai toujours essayé de chercher, de voir les copains de mon mari, est-ce qu'il y a un de célibataire? Ce que j'ai fait, souvent. Et ça, je vais développer plus tard. Ce vrai problème d'individualisme qu'on vit et qu'on, c'est une tendance préoccupante à notre époque. D'accord? Ça veut dire se concentrer sur son foyer et sur soi-même. Et l'idée, et c'est arrivé parce que comme je disais, c'est inné et on a envie de le faire parce que, alhamdoulilah, Allah nous aide à faire ce chemin. Et comme je suis responsable de la mosquée, c'était automatique que les sœurs. On a une facilité quand même de communication et quand elle te pose la question de se dire est-ce qu'il y a moyen que vous nous organisez une rencontre, et comme j'ai dit, la mosquée n'est pas qu'un lieu de prière. J'insiste sur ce point. C'est un espace dédié pour la communauté pour qu'on puisse les écouter, les aider, s'entraider et se rassembler. D'accord? Et donc ça, c'est la priorité d'une part. Et la deuxième partie aussi, c'est que souvent, les sœurs, nous, on a une tendance, une facilité de communication. Et quand on a eu ce retour de sœurs, hein, des appels, des demandes, ben la question, quand on la pose aux frères, il s'avère qu'ils ont le même problème, c'est qu'ils ont eu des retours. Sauf que nous, on facilite la tâche et on s'est dit, alhamdoulilah, eh ben on va y aller. Et après, je vais développer un peu comment ça s'est passé et comment on s'est retrouvé à être organisé et tout, et rassembler toute une équipe de bénévoles avec Yasmine. Vas-y, Yasmine.
Oui, donc voilà, c'est comme l'a très bien dit Zahra, c'est qu'il y a eu une réelle demande de la part des sœurs, les sœurs qui ont cette facilité à elles, dire qu'elles sont dans le besoin. Par rapport aux frères, c'est vrai qu'il y a plus de pudeur. Je sais pas si c'est de la pudeur, mais je pense que c'est de la pudeur de pas parler de ce besoin d'avoir de l'aide pour se marier. Donc on a discuté, moi-même dans mon entourage, j'avais pas mal d'amis qui étaient célibataires, même de la famille. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On pouvait pas se permettre d'être passive et d'attendre que ça se passe. Donc on a décidé de mettre en place un genre de processus, si j'ose dire. Et du coup, donc ce projet, il a été officiellement lancé il y a un an, il y a tout juste un an en fait. Mais Zahra, toi, t'avais commencé un petit peu avant.
Oui, en fait, pourquoi j'ai commencé avant, ça a commencé par, au-delà de mon passé, hein, je parle au sein de la mosquée, d'une sœur, encore une fois, je parle d'écoute et de partage. Une sœur, on a commencé par une sœur qui m'a demandé officiellement de trouver un frère. Donc, j'ai fait que, c'est une petite mosquée moyenne, on va dire à taille moyenne. J'ai officiellement demandé à haute voix les sœurs, est-ce que vous auriez quelqu'un pour présenter pour la sœur? Et ça s'est fait au bout d'un mois. Et on a concrétisé le projet au bout de 2 mois. D'accord?
Waouh!
Ouais, alhamdoulilah. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu beaucoup d'appels. Enfin, on a eu un succès.
Ah bah, tu m'étonnes. Après un tel résultat.
Exactement. Exactement. Et en fait, le retour, c'est que, il paraît que Zahra, elle marie. Donc, là, je n'ai pas très bien compris. J'ai reçu pas mal d'appels de maman, de sœurs et de frères. Le frère, tout simplement, parce que c'est de la part de la cousine ou de la sœur qui appelle pour dire, bah, appelle-la, elle va trouver. Et on a concrétisé, après, informel, dans un cadre informel, d'un aspect convivial, ça veut dire que c'était juste un petit groupe de sœurs et frères qui nous appellent, on organise ça dans une maison, goûter, on présente, je parle bien de présenter et ne pas rencontrer, vous allez voir la différence, je vais la développer tout à l'heure, et quand on a présenté, ça veut dire que le frère et la sœur, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient là pour se parler et pour concrétiser un projet. Pareil, on a concrétisé 4 projets. 4 mariages.
Inch'Allah.
4 mariages.
En combien de temps?
Et au bout de 3, en fait, la durée, c'était 3 mois. Entre la présentation, la rencontre avec la famille et, alhamdoulilah, ils ont des enfants, hein. D'accord? Dont je parle. Pourquoi on arrive à... On va parler du processus maintenant?
Oui, oui.
D'accord.
Non, moi, j'ai une question, j'avoue. Enfin, j'ai une question, commentaire. Mais je voulais vraiment qu'on s'arrête dessus parce que j'écoutais un chouyour qui disait, en fait... je crois que c'était Mamadou Dafé. Il disait, en fait, quand les choses se passent, faut toujours remercier Allah. Il faut toujours se dire que c'est grâce à Allah. Et parfois, les gens viennent le voir en lui disant, non, bien sûr, oui, c'est grâce à Allah, mais c'est grâce à toi aussi. Il disait non, les Arabes, par exemple, ils disaient, ils remerciaient Allah. Ensuite, ils disaient, thumma, toi, c'est-à-dire ensuite toi. Il y a cette question de hiérarchie. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, quand j'entends toutes ces célébrations, tous ces résultats, mashallah, je me dis, c'est Allah qui a fait que ces mariages se passent. On a presque l'impression que c'est Allah qui récompense vos efforts. Mon propos, il est plus là pour encourager des personnes notamment mariés qui se disent oui mais moi je peux pas présenter, j'ai trop peur, etc. Rappelons-nous que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui fait. Donc ça là, c'est un magnifique résultat du fait que, comme on dit, aide toi le ciel t'aidera. Nous, on a juste à faire une impulsion et Allah de toute façon il donnera. Mais cette impulsion, elle doit être faite par nous-mêmes, parce que sinon on n'avancera jamais.
Exactement.
Mais en fait, je rebondis sur ce point, comme tu disais, c'est grâce à Allah justement qu'on est là, et c'est grâce à Allah que on s'est retrouvés. Le hasard fait que je me retrouve avec Yasmine, je me retrouve avec les autres bénévoles. Et pourquoi Allah nous a mis dans cette place, dans cette mosquée? Tout, il y a tellement de choses, et c'est un point très important ce que tu disais, parce que le fait quand on veut concrétiser des projets, et surtout des projets de mariage. On a énormément, et subhanallah, des ondes négatives de personnes. Ça veut dire qu'ils...
De la part de qui?
Ils nous encouragent pas forcément, parce que la seule chose qu'ils nous disent, c'est, oh, vous réalisez pas ce que vous allez faire, mais c'est une sacrée responsabilité. Et là, en fait, on a peur au fond. On reste des humains, en fait. On a peur parce qu'on se dit, ah oui, peut-être. Et au fur et à mesure, rappelle-toi, Yasmine, ce qu'on disait, j'ai dit, de toute façon, nous, Allah, il sait, on travaille avec notre cœur, Et c'est ce qu'on fait. Et ne vous inquiétez pas, Allah va nous faciliter. Et c'est exactement, Madina, ce qui s'est passé, alhamdoulilah. Et on est sur le bon cheminement. Même au jour d'aujourd'hui, on travaille avec notre cœur et on le fait pour Allah. Et les choses se facilitent. Et même quand on rencontre des gens à ondes négatives, eh ben, ils s'écartent. Ils se repoussent tout seuls. Allez.
Alhamdulillah.
Voilà. Et si je reviens à, justement, à la concrétisation du processus, c'est à travers ces mariages-là, ce succès, que on a décidé de mettre en place les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire un processus formel. Avec des fiches. Avec prendre en compte quand même la sécurité des données, faut pas négliger ce point parce que c'est quand même des fiches avec des données privées. Donc on a tout étudié et la seule chose que je peux demander, c'est faire des doigts pour ces bénévoles qui sont des jeunes, qui se donnent à fond, qui c'est des sœurs, mashallah, Yasmine, il y en a d'autres, je citerai pas leurs prénoms. Et il faut leur faire des doigts parce qu'elles se donnent à fond, elles ont une charge d'activité, elles travaillent, et elle se démène vraiment pour le succès du projet parce que, crois-moi, Madina, c'est une charge qui n'est pas négligeable de traiter les fiches, de faire le matching et de contacter les gens et de se libérer les week-ends.
Ouais, subhanallah, mais tu vois, j'allais venir en fait sur le, est-ce que vous pouvez me dire précisément, est-ce que c'est du matching, est-ce que c'est de la mise en relation, est-ce que vous lisez les profils, mais mashallah, vous avez répondu à cette question et en plus vous avez souligné cette importance, enfin vous avez souligné la charge de travail qui est réelle. Et je pense que parfois quand on fait des initiatives comme celle-ci, on se dit bon bah ils aiment bien, donc ça va, ça prend pas tant de temps que ça, mais c'est toujours important de le rappeler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait avec plaisir, personne ne vous a forcé à le faire. Et c'est parce qu'on vous a pas forcé à le faire que ça nécessite pas de la reconnaissance, au sens où il faut que les gens reconnaissent cette somme de travail là. En tant que musulman, c'est presque un devoir qu'on a. En tant que musulman, on est presque injuste quand on consomme le travail d'une personne et qu'on ne réalise pas sa charge derrière. Mais parfois, on peut pas la réaliser si on nous le dit pas. Donc merci de votre disponibilité et merci de nous le réindiquer ici, parce que sincèrement, je pense que c'est important. J'ai une autre question, c'est que tu vois, cette histoire, elle a l'air de très bien commencer, Zahra. Mais pourtant, Yasmine, tu m'as contactée par mail et tu m'as indiqué que c'était difficile, que c'était dur de faire des matchings, que c'était dur de concrétiser des rencontres ou plutôt des présentations, comme dirait Zahra. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un moment où ça a basculé?
En fait, on s'en est rendu compte dès les premières rencontres. Que en fait, malheureusement, pour la plupart, on va pas dire pour tous les candidats, mais les personnes s'arrêtent sur des détails, en fait. C'est-à-dire que je peux donner pas mal d'exemples.
Oui, je pense qu'il en faut, parce que encore une fois, c'est hyper important, notamment dans ces conversations-là, de rester dans le factuel pour que tout le monde... en fait, le mariage, l'amour, ça nous renvoie vite à nos émotions. Et là, il faut vraiment qu'on essaie de rester concentré. Et je pense que les faits, ça peut nous aider. Donc, on t'écoute.
Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles les frères ou bien les sœurs peuvent s'arrêter. Par exemple, les frères, de manière quand même générale, ils ont tendance à s'arrêter sur l'âge. J'ai un exemple qui me vient en tête d'un frère qui avait 28 ans, qui souhaitait une femme d'une origine. Donc, on lui propose une sœur qui avait 28 ans comme lui. Et par rapport à ces tailles-là, en fait, il n'était pas pour. Il a dit « Non, moi, ça me dérange, quel est mon âge ?» Et en fait, on se dit, quand t'es dans une démarche où tu veux te marier, est-ce que vraiment l'âge est un sujet sur lequel on peut vraiment s'arrêter, dans le sens où la sœur n'est pas plus âgée, elle a juste ton âge. Et du coup, le frère était très radical, il a dit non, moi je ne veux pas, et de toute façon même par rapport à ma famille, ça va poser problème. Donc en fait, quand on a ce genre de personnes qui font pas l'effort même de rencontrer la sœur pour une question d'âge, c'est là qu'on se rend compte que c'est compliqué, et que le problème il est peut-être plus profond que ça. Donc il y a ça, il peut aussi avoir les détails physiques. Oui. Les frères sont très 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 focus sur le physique. Ils n'hésitent pas à mettre
à quel niveau, au niveau des origines, donc de la couleur de peau, au niveau du physique du corps, de
oui, clairement ça du peut corps. Être la corpulence, ça peut être oui. La taille. On a déjà un frère qui a dit qu'il souhaitait une sœur avec des mains fines. Et sache que c'est pas une blague.
Pardon, des mains fines.
Des mains fines, pour lui c'était important.
Ah, d'accord.
Une femme très coquette, une femme sportive, une femme plutôt blonde, les yeux clairs. En fait, c'est vraiment des détails sur lesquels ils sont très 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 à cheval. Et du coup, quand tu t'arrêtes sur ce genre de détails, comment tu peux faire des rencontres? C'est-à-dire que si la sœur n'a pas ces critères-là, la rencontre n'est pas nécessaire pour eux.
Et est-ce que quand ils arrivent avec ce genre de critères, enfin comment vous le recevez? Il n'y a pas de discussion possible parce que c'est ce que tu as l'air de dire.
C'est compliqué en fait. Nous, on essaye de leur dire, les critères, c'est normal d'en avoir, mais à un moment donné, le mariage, c'est pas basé que sur des critères physiques, c'est pas basé que sur des détails tels que l'âge. Donc on essaie clairement de les persuader de changer d'avis, de se rendre compte que malheureusement c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à faire de matching. Donc parfois il y en a qui arrivent à accepter, donc ils font quand même la rencontre, mais il y en a qui restent clairement butés.
Et même si je peux rajouter un autre point, c'est que on a essayé quand même, on peut partager avec toi l'affiche sans mettre de logo, mais tu vas voir les questions. On a essayé quand même de rentrer dans les détails des fiches. Donc a priori, quand on fait le matching pour la concordance de, en fait, la compatibilité entre les profils, il me semble que il a quand même des commentaires, donc il exige ces détails. Et on essaye d'étudier. Et crois-moi, Madina, pour rentrer dans les détails, lire, parce que des fois on a des longs textes, on lit et on essaye de faire le maximum pour que ça matche avec une validation, parce qu'on a, je te dis, on a mis en place un processus. Ça veut dire que je valide pas moi toute seule ou Yasmine, on valide ensemble le matching pour dire oui, parce que peut-être qu'on n'a pas fait attention à tel critère. Au-delà de ce point, dans un premier temps, le deuxième problème qui se pose, c'est que, comme elle disait, sur des critères qu'il rajoute. Bon, nous, on est surpris et on essaye de leur rappeler les fondamentaux. C'est pour ça qu'en fait, les mêmes s'appuient sur les critères et la recherche des valeurs islamiques. Et je reviens sur l'éducation de la Sirah Nabawiyah qu'il faut lire et qu'il faut comprendre réellement ce que c'est les valeurs islamiques, notamment dans le monde du mariage. Je pense qu'il y a un manque. Il y a réellement un manque. Quand on nous parle, par exemple, de dire « je la veux de telle manière », ils sont où les fondamentaux du mariage? Qui sont sur les deux piliers, piété et comportement. Ça, c'est les deux piliers, d'accord? Au-delà, on essaye de faire l'effort, ce qui est normal, l'effort spirituel, on est obligé à notre époque de pas lui dire « écoute, ça sera que piété ou comportement ». Non. On peut quand même respecter et de dire voilà, il y a un niveau social et il y a un niveau culturel. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Il y a des fois où ça bloque et on est obligé de prendre en compte l'ethnie, si c'est possible, si c'est pas possible, on prend en compte tous ces points-là. Donc on essaye quand même de mettre tout un matching qui rassemble ces bons critères pour le sœur comme le frère, mais on a cette impression de dire on veut le parfait et la parfaite. Sauf que le parfait c'est Allah. Et on n'est pas des anges, on est des créatures d'Allah et on n'est pas des anges. Et tant que le frère ou la sœur ne font pas cet effort, comme elle dit, et se figer sur des questions futiles, parce que pendant la rencontre, il se bloque ou elle se bloque parce qu'elle a posé une question, et c'était juste parce que ils se sont mal compris. Ils se sont mal compris, et ben après ça, après le débriefing, clairement il dit non, je veux pas poursuivre. Donc les fondamentaux, ils sont plus là. Est-ce que c'est l'éloignement de la taqwa, de la piété? Il me semble que oui. Est-ce que c'est le manque d'avoir des recherches vraiment poussées sur ce que c'est le mariage? Je crois que oui aussi.
Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça semble évident, en fait. En tout cas, quand vous le dites. Et alors, s'il y a des frères qui écoutent, vous inquiétez pas, on va partir après sur les critères des sœurs. On n'oublie personne ici. Mais là, je fais juste une petite interlude. C'est très juste ce que tu dis dans le sens où je pense que ce qui peut aider les frères comme les sœurs à sortir du critère, c'est toujours de se rappeler pourquoi je me marie. Moi, à titre personnel, encore une fois, je trouve que c'est fondamental de vous avoir ici, Yasmine et Zahra, parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à comprendre et parfois même à faire comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'un ou une célibataire musulman. Moi, ma perception, c'est que on a envie d'un côté d'aller au-delà de nos critères et on se le promet presque avant de voir une fiche. Sauf qu'en fait, quand on reçoit une fiche avec un âge, une origine, une profession, un niveau d'études et autres, en fait, on a que ça en fait. Et quelque part, ça nous fait presque oublier tout le reste. On oublie encore une fois pourquoi on est là. On oublie qu'il y a plus important. Et moi, j'ai toujours que tous ces critères-là, pour le célibataire, c'est un peu comme une bouteille d'eau dans le désert pour un bédouin, en fait. C'est tout ce qu'il a. On ne sait pas ce que c'est que le mariage. Pour les personnes qui sont divorcées, elles ne savent pas ce que c'est qu'un mariage qui est sain. Donc, je pense que profondément, comme on ne sait pas grand-chose, on garde ces critères en se disant « bah ça, au moins, je suis sûre que ça va me plaire ». Comme je ne sais pas à quoi ça sert le mariage, enfin, pas à quoi sert le mariage, mais à quoi va ressembler le mariage, si au moins j'ai ça, Inch'Allah, je ne vais pas me tromper. Parce que c'est dur. D'un côté, on dit au célibataire qu'il est trop exigeant. D'un autre côté, quand il est exigeant, il dit « ouais, mais tu ne trouveras jamais ». Et en fait, on sait qu'on est exigeant, mais je pense qu'on a du mal à sortir de ces exigences-là.
Il n'y a pas que l'exigence. Il y a aussi, je crois qu'il y a, un éloignement. Ça veut dire on ne fait plus confiance en Allah. Et il y a un deuxième point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, moi, à chaque fois que je parle avec la sœur et le frère et que je les sens un peu réticents sur les questions, non, mais je lui dis, mais t'inquiète pas, essaie de le voir ou de la voir et tu verras, il y a les âmes. Moi, je crois à quelque chose qui s'appelle les âmes. Et ça, dans le Coran, c'est écrit clairement. Ça, c'est des choses qui nous dépassent largement. Parce que des fois, t'es devant un frère et que ça passe et tu ne sais même pas pourquoi ça passe et j'en connais et j'ai des cas concrets où la sœur avait demandé des critères bien précis et quand elle a rencontré le frère, ça a marché, ils ont concrétisé le mariage, va savoir, et ben ça c'est les âmes, et ça nous dépasse. Et c'est écrit dans le Coran que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, et qu'on ne maîtrisera pas. Donc à partir de là, quand on fait At-Tawakkul Allah, et on va faire confiance, et on se dit, ok, je dis Bismillah, il y a peut-être des choses qui ne sont pas parfaites, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'équilibre. Ça veut dire à partir du moment où il y a peut-être un critère qui ne correspond pas, eh ben moi je m'appuie, si j'ai la tête sur les épaules avec des valeurs islamiques, clairement des enseignements bien poussés, je dis c'est un équilibre. Eh ben tant pis, il a pas ça, j'avais quand même avancé. Eh ben tant pis, si elle a pas ce critère-là forcément, je vais avancer. Il vaut mieux qu'ils avancent ensemble, parce que sinon si le parfait avec le parfait, ça sera on va être des anges dans les maisons. C'est pas le cas. C'est pas et c'est là qu'il faut peut-être passer au-delà. Et c'est vraiment le problème qu'on a.
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Zahra, vraiment. Mais j'essayais juste d'essayer de rentrer un peu dans la tête du célibataire qui lui voit pas toujours pourquoi il s'accroche à ces critères-là. Mais l'une des manières de s'attacher à ces critères-là, évidemment, c'est de faire confiance à ce prétendant. Parce que ceux qui sont mariés et qui ont fait des rencontres, des présentations, comme tu le dis très bien, on le sait très bien que ce qui a fait qu'on s'est marié, en tout cas, je vais parler pour moi. Peut-être tu parleras pour toi, Zahra, mais je vais parler pour moi. Ce qui a fait que je me suis mariée, c'est que j'ai eu fait confiance en Allah. C'est que je me suis dit, Madina, ces critères-là, à un moment donné, tu peux plus. Il y en a trop. Il faut accepter que tu n'auras pas tout ce que tu veux. Et je me suis dit, Madina, Allah ne t'a jamais déçu. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire, quand t'as abandonné une ou deux choses dans ta vie pour Allah, tu n'as jamais été déçu. Pourquoi là, ça changerait? Et subhanallah, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Au contraire, justement, peut-être ce qu'il faut dire aussi aux frères et sœurs filles là, c'est que quand il y a des critères qui nous semblent importants, qu'on abandonne, on a tellement mieux. Et on le sait, quand on lit le Coran, Allah, il nous le dit. Allah, il le remplace toujours par quelque chose de mieux. Mais parfois, il faut le redire, le répéter pour rassurer et puis retravailler, aider les frères et sœurs filles là à travailler leur tawakkul ala Allah.
Il y a le tawakkul ala Allah et moi, je rajouterai un point. Je sais pas si tu partages avec moi. Il y a de plus en plus de sœurs, à un certain âge, à partir de 26, 27, 29, tout le monde la regarde. Elle travaille, bonne situation. Elle a tout pour elle. Et on lui dit, t'as trouvé? T'as pas trouvé encore? T'as trouvé. Quel est le rôle des familles dans ce cadre-là? Et quel est le rôle de la sœur? J'en veux aux frères et aux sœurs et j'en veux aussi aux parents. Parce que aujourd'hui, le rôle, il a été écarté. Le rôle des familles, dans le passé, les pères et les frères, c'est eux qui étaient en charge de voir le mari, le prétendant, de leur fille ou de sa sœur. Est-ce que aujourd'hui, Medina, c'est des choses qu'on fait alors que c'est dans nos valeurs islamiques, hein?
Alors là, tu vois, j'ai été l'avocat des célibataires jusque-là. Je suis obligée de repartir dans l'autre sens parce que honnêtement, là, je pense que en tant que célibataire, on a une grosse responsabilité. En tant que célibataire, souvent enfant d'immigrés né en France, on a eu pour beaucoup d'entre nous une attitude de j'ai pas besoin de mes parents ou ouais mais mes parents ils me comprennent pas. mes parents, ils vont me ramener, pardon de l'expression, quelqu'un du bled. Moi, je veux pas quelqu'un du bled. Mes parents, ils me comprennent pas vraiment. On est beaucoup à être passés par là. Et donc, on a eu cette attitude-là. Nos parents se sont retirés. Et quand on arrive à un certain âge et qu'on veut se marier, on leur dit, bah, vous nous présentez pas? Bah, non, mais vous leur avez demandé de se retirer. Donc, ça, par contre, il faut prendre ses responsabilités en tant que célibataire. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui voulaient présenter. Il y en a qui voulaient peut-être pas. Mais moi, honnêtement, je connais plus de parents qui ont voulu présenter. Mais on les a retirés du projet. Et ça, encore une fois, c'est une grande leçon formidable que j'ai retenue de mon mariage. C'est que inclure sa famille dans le process de décision, c'est capital. De recherche, c'est encore mieux si on le peut. Mais même de décision, c'est très important.
Et pareil pour les mamans. C'est elle qui était en charge de trouver la sœur, sa future belle-fille. Et ça ne se fait plus. Ça se fait uniquement au Moyen-Orient pour les grandes familles riches. Parce que il faut se marier entre eux. D'accord?
Bien sûr.
Mais ça ne se fait plus chez nous. Et c'est impensable. Et je rajouterai un autre point qui va peut-être être choquant pour tout le monde. Est-ce qu'on sait que de toute façon, dans le passé, à la période de Rasoul Sallallahu Alayhi wa Sallam, qu'il y avait une sœur qui est venue, qui a demandé à notre prophète de l'épouser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux imaginer une sœur qui arrive et qui justement considère que c'est un frère salih, ça veut dire pieux, avec les bons droitures, correct, pieux, avec un bon comportement, elle se dit, subhanallah, je trouverai pas mieux. Pourquoi je lui propose pas? Eh ben, tout simplement, elle peut pas lui proposer parce qu'elle a peur d'être critiquée. Elle va être jugée. Et je ne sais pas, je rajouterai pas d'autres mots. Et donc, en fait, on fidélise. Enfin, je sais pas du tout ce qu'on a dans la tête, surtout, je sais pas, pour les frères et les sœurs. J'ai envie de dire ça, je vais le dire. Est-ce qu'on idéalise et on a envie de faire du copier-coller avec Netflix, les séries? C'est pas ça, hein, la réalité. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est autre chose que les séries qu'on suit et qu'on idéalise la famille de la maison dans la prairie. C'est pas du tout ça. La réalité, elle est autre. Et on a des valeurs islamiques, alhamdoulilah, qui peuvent nous protéger, qui peuvent nous guider sur le bon chemin, mais on cherche le parfait, du parfait, du parfait. Je reviens sur le mot parfait parce que c'est ça la problématique. Et comme on veut plus intégrer nos familles, on veut plus intégrer, et l'individualisme des amis, pareil, à partir du moment, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est qu'on se soucie plus de personne. Je vois mon intérêt, je ferme la porte et je dis, je ne fais plus confiance à personne. Le monde, on sera tous jugés, hein, devant Allah sur ces actes-là. Vraiment.
Mais je pense que la question de l'individualisme, Mohamed Oudihat, il en parle très bien. C'est un spécialiste un peu de la question de l'amour, du mariage en général et particulièrement en islam. Et en fait, il explique que c'est l'une des grosses raisons du célibat, en fait. C'est l'individualisme. Mais l'individualisme de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde vit en individualité. Le célibataire, encore une fois, c'est pour beaucoup séparé de ses parents en disant « j'ai pas besoin, je vais trouver tout seul ». Les parents, eux, ils ont leur problématique à régler. Enfin, tout le monde est rentré un peu dans une forme d'individualisme et donc plus personne ne cède. En plus, comme tout le monde est individualiste, plus personne ne se connaît. Moi, je connais pas mon voisin, donc je peux pas te présenter mon voisin en disant « il est salir ». J'ai plus personne à présenter vu que je me suis coupée. Donc cet individualisme-là, il est réel, il est concret. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais quand même qu'on parle de la question des critères des sœurs, parce qu'on a parlé des frères, et je suis à peu près persuadée que les critères, c'est jamais que dans un seul sens. Donc Yasmine, si tu veux répondre et continuer là-dessus, ou Zahra.
C'est Yasmine, allez.
Par rapport aux sœurs, pour être très honnête, et pas pour prendre parti, les sœurs, elles sont quand même plus flexibles que les frères. Pour être honnête. Mais ça dépend. La problématique qu'on peut rencontrer avec elles, c'est qu'elles s'arrêtent sur des détails, elles, pour le coup. C'est-à-dire qu'elles acceptent de faire la rencontre, même si tous les critères ne sont pas cochés. Mais si le frère dit une phrase, par exemple, je donne un exemple d'un frère qui était pas trop pour un mariage mixte, par exemple, la sœur s'arrêtait sur ça. Alors que nous, on estime que c'est des sujets sur lesquels on peut toujours discuter. Par exemple, il y a un frère qui a rencontré une sœur. Il a parlé d'un projet de partir s'installer dans un pays tel que le Maroc, par exemple. Et la sœur s'est arrêtée sur ça. Alors, c'est juste un projet. Donc, on va dire que les sœurs, c'est surtout sur ces petits détails. Et dès qu'il y a un petit point qui ne concorde pas avec ce qu'elles veulent...
Elles sont méfiantes.
Elles sont méfiantes.
Elles sont très méfiantes.
Elles sont très méfiantes aussi. Mmh. Donc, on va dire que c'est surtout ce qu'on rencontre avec elle. Et on a aussi beaucoup de filles, on a beaucoup de sœurs qui sont nées ici, qui ne veulent pas de frères qui sont nés au bled. Mm. Et parce qu'elles estiment qu'en termes de mentalité, ça va pas coller.
Et pourtant.
Alors que parfois, c'est quand même des frères qui sont très très bien. En termes de mentalité, il y a aussi une certaine méfiance aussi. Mm. Et donc voilà. Hein.
Mm. C'est vrai. Et je voulais aussi rajouter aussi des fois en fait. Quand la sœur, elle discute, donc on fait un débrief après la rencontre, et elle dit oui, mais il m'a posé telle question, et la réponse, elle n'était pas très claire. Et je pense que, donc en fait, plein de sujets, hein, on va pas étaler parce que c'est très large, en fait. Et on lui dit non, alors on prend le téléphone, on essaie d'appeler le frère pour expliquer. Alors lui, le pauvre, il nous explique, il nous dit non, mais faut savoir que des fois, les frères, ils sont pas timides, mais c'est la première rencontre, c'est un peu difficile. On va pas croire, hein. Faut pas croire que le frère, parce que c'est un homme, attention, non, devant une sœur, il est perturbé, je le comprends. Et je pense que l'aide, elle peut être, étroite entre les deux. Il faut quand même que chacun prend en compte que c'est la première rencontre, c'est un peu difficile, même si nous, on met un peu l'ambiance pour leur dire, détendez-vous, il y a pas de problème. On les met à l'aise, justement, mais après, alhamdoulilah, ça se passe. Mais, comme elle dit Yasmine, c'est pareil. La sœur, elle est là, elle nous donne une version. Et alors, quand on appelle le frère, justement, pour rattraper, pour qu'elle puisse pas dire non, je vais pas poursuivre, ou lui, on lui dit non, mais en fait, je pense que vous êtes pas compris. En fait, on fait l'intermédiaire d'expliquer, de détailler et de faire comprendre à la sœur qu'elle a peut-être pas très bien compris sa version. C'est ça qui est compliqué pour les sœurs, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle reste sur des questions futiles. Alors que c'est des choses qu'on peut étaler après. En fait, elle cherche pas l'essentiel.
C'est ça. Et je pense que honnêtement, que ce soit les frères ou les sœurs, il y a un problème de tawakkul ala Allah. Hein. C'est-à-dire que les deux ont du mal à lâcher prise. Et ça, c'est important de le dire. Nous, en tant que femme, et Yasmine, je te rejoins évidemment. Moi, quand j'entends, elle a pas les mains fines. Oui, c'est dur pour moi en tant que femme de pas avoir de réaction épidermique. Tu vois, ça me demande un effort. Mais je pense qu'il faut entendre, comprendre les réactions des uns et des autres, tout en étant très clair sur le fait que ce soit un frère ou une sœur. Pour moi, il y a un manque de lâcher prise. Il y a un gros manque de lâcher prise. La sœur, elle a une checklist. Si elle a pas sa checklist, elle se dit, ah, mais je suis pas sûre. Alors, on sera jamais sûr. Ça, c'est le propre de la foi. C'est de se dire, je crois en Allah même si je ne le vois pas. C'est de se dire, je rentre dans ce mariage sans avoir 100% de certitude, mais si je sens qu'Allah, il m'a mis sur ce chemin, alors j'y vais. C'est ça, le fait de croire. Sinon, je crois en moi et en ma checklist. C'est pas la même chose.
Oui, mais Madina, nous, on ferme pas la porte. Ça veut dire, on est à l'écoute. Quand un frère ou une sœur nous disent clairement, on est un peu ouvert dans l'esprit. Hein. C'est-à-dire qu'on ferme pas la porte. On est à l'écoute. On leur dit, qu'est-ce qui allait pas? Je veux bien, moi, par exemple, quand on me dit, au niveau physique, il a le droit, elle a le droit de dire, non, mais c'est pas passé. Ouais. Je me sens, des fois, en fait, on comprend même pas, ça passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Est-ce que je reviens à la concordance des âmes, le feeling, il est pas passé. Très bien, je peux comprendre. Mais me donner des explications qui ne sont pas très nettes sur des réponses parce qu'elle n'a pas été claire sur telle réponse, parce que sur son métier, sur un point qu'on a oublié. Alors, il y a des frères, clairement, qui nous disent, je veux pas de mixité. Je veux pas une carriériste. Je veux pas une femme qui sort beaucoup. Je ne sais pas du tout, il est où le raisonnement de la vie d'une sœur qui a fait Bac+5, Bac+6 et qu'on lui dise, en fait, si tu te maries, c'est plus comme ça. Elle est épanouie chez ses parents, elle a tout. D'accord? Elle va se retrouver, normalement, moi, quand j'appelle le frère, je lui dis, écoute, tu sais qu'elle est heureuse. Logiquement, quand elle doit se marier avec toi, il faut qu'elle soit heureuse plus. Logiquement, hein. Ou alors gardant au moins la même longueur d'onde, gardant même niveau. Et pour les sœurs, justement, et je pense qu'aussi, on a beaucoup de retours de sœurs qui sont entourées de copines divorcées. Et ça c'est la vraie problématique. Et à chaque fois, elles me sortent...
Qu'est-ce qui est problématique? C'est la mauvaise énergie?
C'est la mauvaise énergie des sœurs divorcées pour dire, de toute façon, vu ce que je vois autour de moi, j'entends beaucoup parler de ça. Mmh. Vu ce que je vois autour de moi, mes copines qui s'est mariées au bout d'un an, deux ans, ça a pas marché, je sais pas l'utilité. Et c'est pour ça qu'elle se méfie, et c'est pour ça qu'elle veut tellement faire attention par rapport à ces questions, de se dire, je dois pas me tromper de la personne. Je dois surtout pas me tromper. Et crois-moi, Medina, on a beaucoup divorcé.
Le problème, c'est que...
On a beaucoup divorcé avec ses enfants.
Est-ce que c'est dur pour une femme divorcée de se remarier, et si oui, pourquoi? En tout cas, vous, quand vous essayez de faire les matchings.
C'est compliqué pour les femmes divorcées parce que la plupart des hommes qui sont eux divorcés avec des enfants n'acceptent pas des femmes divorcées avec enfants. Ça paraît fou, mais c'est clairement cette réalité qui fait que ça reste quelque chose de très compliqué.
Ça reste 2% qui
accepte. Ouais, il y a peut-être 2% à la rigueur de frères qui acceptent, qui acceptent ce genre de profil. C'est comme si, en fait, elles étaient périmées, alors que parfois elles sont très jeunes, très intelligentes. Elles ont tout pour elles. Et c'est un des critères qui bloque. Le frère, il demande, elle a des enfants, ah non, je préfère pas. Alors que lui-même est divorcé. Donc, normalement, ça pourrait être logique que ça puisse matcher entre eux, parce que ils ont le même parcours, ils ont des enfants tous les deux, donc, mais malheureusement, ça reste compliqué pour les sœurs divorcées.
Et moi, j'ai quand même envie de poser une question. C'est parce que là, on dresse une réalité qui est difficile, qui pourrait presque paraître comme pas encourageante. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a une issue? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, si on est là en train de discuter, c'est pas que, je pense, pour donner des faits. C'est aussi ouvrir la voie vers des solutions. Donc, pour les frères et sœurs qui nous écoutent, quelles seraient les solutions? Je vais poser cette question et puis après, j'en poserai une autre parce que je voulais vraiment revenir, Zahra, sur la question des femmes, du travail, de leur épanouissement dans leur famille. Je pense que c'est un vrai sujet et j'aimerais beaucoup qu'on en reparle. Mais je vous laisse répondre à cette première question dans un premier temps.
Alors, effectivement, il y a un constat. On a partagé quelques petites histoires qu'on a rencontrées, frères et sœurs. On n'a pas la recette magique. Il y a déjà tawakkul ala Allah qu'on avait dit. Il y a aussi le fait que une fiche reste une fiche. C'est du papier. On écrit ce qu'on veut dans une fiche. Et j'espère que tout le monde est honnête quand il remplit cette fiche. Mais après, il y a quand même, comme tu disais, Allah t'a mis sur ce chemin. Fais l'effort. Peut-être que ça n'a pas marché avec la première, ça peut marcher avec la deuxième. Mais sur les questions futiles, et en fait, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a éduqués. Je reviens toujours à dire, les enseignements islamiques, ils sont importants de comprendre quels sont les fondamentaux d'un mariage. Piété, comportement, droiture, filine des âmes, etc. Et se dire, de toute façon, une question pareille, c'est pas grave. Je donnerai la chance on peut pas se dire, non, ça marchera pas, je ferme la porte. Ah, non, je vais pas poursuivre. Non. Il faut essayer la deuxième rencontre. On leur facilite, on leur dit, mais c'est pas grave. Si t'as pas compris la première question, je crois qu'il faut faciliter les choses. Et je reviens sur le mot équilibré. Un équilibre. L'islam, c'est un équilibre aussi. Dans sa tête, on n'est pas obligé de rentrer à la maison pour dire, ah, je fais la salat istikhara. Attention, hein. Je fais la salat istikhara et moi, Là, j'ai eu des retours négatifs. Là, je vais arrêter. Je veux bien. Moi, je respecte la salat l'istikhara. Mais salat l'istikhara, quand on te présente quelqu'un que tu n'as même pas vu et que tu te fiches pour dire non, je vais pas y aller parce que j'ai fait la salat l'istikhara.
Et que dans mon cœur, je ressens pas. Donc, ça veut dire que c'est un signe.
C'est un signe. Dans ce cas-là, on ferme la porte et puis on te présentera personne. Pareil pour la sœur. Hein. Je parle pour les deux. Hein. Je raisonne pas pour frère ou sœur.
Donc, la solution, c'est vraiment.
Et la solution aussi, je pense qu'il faut que les jeunes. Comme nous, on a pris cette initiative, c'est un petit projet, alhamdoulilah, mais on veut y aller. Il faut que tout le monde se soucie de cette communauté. On a des jeunes qui travaillent, il faut que s'ils nous écoutent, moi je leur demande vraiment de faire l'effort, de faire une association et d'avancer, de faire des rencontres, de présenter des gens. Quand on sait moi je suis mariée et que quelqu'un de la famille qui cherche, n'hésitez pas, ne se mettez pas dans l'idée de se dire ah, non, moi je veux pas, surtout pas de responsabilité. Je veux surtout pas. Non, c'est ta responsabilité et c'est ton devoir de se dire non. Ben si il est pas marié ou elle est pas mariée, moi j'ai un cousin éloigné ou je ne sais qui. Je vais te le présenter. Je fais un dîner à la maison. Qu'est-ce qu'il y a de mal? J'invite. Je trouve une occasion pour faire rencontrer les gens. Et ça c'est notre devoir déjà. Il y a pas de recette. La recette elle est là en fait. La recette c'est que on a tout devant nos mains mais on fait rien. Parce que c'est la fatigue, parce que c'est le fainéantisme et parce que c'est la crainte et parce que c'est l'ouest-ouest de Shaitan qui fait que on veut rien faire. on est là à écouter et attendre comment ça se passe.
Yasmine, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, je veux juste pour rebondir sur ce qu'elle disait, Zahara. Oui, en fait, c'est important que chacun fasse l'effort et de ne pas s'arrêter sur un détail, d'approfondir, ne pas se limiter à une seule rencontre en se disant, ah, il y a ça qui est négatif, donc je pense que ça va pas le faire pour le reste. Non. Il faut vraiment placer sa confiance en Allah. Et vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Effectivement, on a tous nos critères. Et ça, personne pourra le retirer. Mais finalement, un mariage, c'est quoi? Un mariage, qu'est-ce qui compte dans un mariage? C'est l'équilibre, c'est le comportement, c'est la crainte d'Allah. Et après, le reste ne peut que marcher. Voilà, je pense que c'est le meilleur à faire passer.
D'accord.
Je vais te donner un exemple concret d'une sœur qui nous a dit, moi, je sens qu'il n'est pas très responsable et il ne fait pas sa prière de Fajr. Est-ce que, crois-moi, tout dépend du degré de piété. Attention, parce que le degré de piété de chacun, il est différent. Ça veut dire que si moi, j'ai un niveau 1 et toi, tu as encore le niveau 3, j'ai que accepter la sœur ou le frère parce que je vais essayer de l'aider quand on sera sous le même toit, de l'aider, de lui donner cette envie et de faire cette compétition parce que ça reste une compétition, de se dire, je vais le suivre ou je vais la suivre pour que je puisse me réveiller. Non. Elle a refusé parce qu'il se réveillait pas le Fajr. Subhanallah, tu vois. C'est un détail, mais il est important.
Non, mais c'est important. Et encore une fois, c'est pas que je veuille défendre les célibataires à tout prix. Mais moi, je me souviens que quand j'étais célibataire, c'était des sujets, ça, pour moi, en fait. Alors, je pense que là où vous avez raison, c'est qu'il faut essayer de creuser. Comprendre pourquoi tu travailles pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut mettre des choses en place. Mais particulièrement quand on est une sœur, quand même, on quitte un mahram pour un autre, on se doit de vérifier, notamment sur les sujets religieux, qu'on sera en sécurité. Être en sécurité, c'est vaste. Moi, je dis pas qu'être en sécurité, ça veut dire qu'il faut absolument que le frère y prenne des cours. C'est pas ce que je dis. Mais par contre, de rentrer dans un mahram, on se dit, je me sens en sécurité dans le sens où il y a un niveau duquel on descendra pas. C'est un point de vue, hein. Je dis pas que ce que je dis, c'est la vérité absolue, parce que de toute façon, la vérité absolue n'appartient qu'à Allah. Mais en tout cas, je pense que, et c'est ça pour moi, en fait. Si je vais résumer ça en une phrase, c'est ça qui est difficile quand on est célibataire, Zahra et Yasmine. Et Yasmine, toi qui es célibataire, je crois peut-être d'être avis, c'est que on a beaucoup de signaux, parfois, contradictoires. Et c'est pour ça qu'à mon avis, les sœurs, elles ont une grosse checklist. Parce qu'encore une fois, on te dit, il faut laisser de la place à la personne et en même temps il faut quand même que tu vérifies ça hein, parce que si tu vérifies pas ça et que tu divorces, on va dire on t'avait dit hein, t'as pas vérifié ça, oh franchement tu t'es pas bien préparé quand même. Donc c'est pas évident en fait. On entend beaucoup de signaux parfois contradictoires. Donc dans la tête d'un ou d'une célibataire, parfois ça travaille beaucoup. Et je voudrais juste revenir sur la question du travail et de la femme qui a fait des études, qui est heureuse dans son foyer. Je t'entends là-dessus, Zahara. Je suis d'accord. Moi-même, j'ai fait des études, donc je vais jamais dire aux sœurs ne faites pas d'études. Je fais un podcast, donc je vais jamais dire aux sœurs surtout ne travaillez pas. En revanche, je pense que en tant que sœur, on a une responsabilité. C'est de se rappeler que quand on se marie, Allah ne nous a pas donné beaucoup de devoirs en tant que femme. L'un des principaux, c'est d'amener la paix dans son foyer. Ça aussi, c'est large. Je pense qu'en tant que femme, ce n'est que mon point de vue, mais je pense que c'est difficile d'amener une harmonie dans son foyer, une paix dans son foyer et dans soi-même quand on travaille 40 heures, 50 heures par semaine. Je pense qu'en tant que femme musulmane, on doit se dire, j'ai fait des études, j'ai appris des trucs hyper intéressants dans le cadre de mon boulot. Comment je peux faire pour récupérer ces choses-là et les mettre à profit dans ma vie de femme musulmane? Mais soyons clairs, l'Occident, le pays dans lequel on vit, et même, enfin, je veux dire, aujourd'hui, même si on est au Sénégal et qu'on vit dans une grosse boîte, tout est occidentalisé, le travail n'a pas du tout été fait dans sa construction pour qu'on ait une place dans notre foyer en même temps. Et ça, je trouve qu'en tant que femme, on doit l'entendre. Une dernière chose, les sœurs qui se sentent très bien chez leurs parents, c'est très bien, alhamdoulilah. Faut pas descendre, t'as raison là-dessus, Zahara. Mais un, le bonheur, ça se travaille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à rentrer dans un foyer en disant « t'as intérêt à me rendre heureux ». C'est à toi aussi de te rendre heureux dans le foyer et tout le monde doit être heureux dans le foyer, en fait. C'est important. Parce que je trouve que on a un peu, certaines sœurs sont un peu princesses. Le mariage, c'est pas ça. Ou sinon, toi, t'as un prince aussi, donc il va avoir ses exigences. Je voulais juste leur préciser parce que moi, c'est un peu ma manière de penser et je me serais pas sentie bien si je l'avais pas partagé.
Mais moi, en fait, c'est bien parce que je rebondis sur le mot princesse. Et on avait une sœur, effectivement, qui disait « Oui, mais il travaille, bon, moi, j'ai un super poste. » Et les sœurs, elles arrivent quand même à accepter, même si c'est pas le même niveau. Même elles se disent « De toute façon, oui, je pars sur les fondamentaux. » Nous, quand on l'appelle et on lui dit « Non, franchement, ça a l'air de quelqu'un de bien. Bon, il a pas fait bac plus 10, mais bon, quand elle dit oui, ok, elle avance. » Et après coup, elle nous explique que « Oui, mais de toute façon, il est responsable de la maison. » Donc là, moi, je creuse un peu. Je lui dis, mais dans quel cadre tu parles de ça? Elle m'a dit, oui, mais de toute façon, c'est lui qui prendra en charge la maison. OK. Alors que la sœur, je crois qu'elle gagne quand même bien, bien, bien sa vie. Et alors là, moi, j'insiste sur ce point-là. Et je lui dis, mais tu sais, un foyer, il est responsable de ta maison. Ça veut dire, il va tout payer. Elle dit, oui, ben, c'est sa responsabilité, hein. Je dis, oui, mais toi, tu as quand même ton salaire. T'es quand même obligé de l'aider. C'est pas une obligation, mais quand même, c'est ton mari. Tu vas fonder une famille, tu vas avoir des enfants. Moi, personnellement, ça me perturbe, cette histoire. Parce que, autant en islam, on dit, oui, il est responsable, mais tant que la sœur travaille, tu ne peux pas le regarder souffrir. Il a du mal à finir de payer son loyer, de faire ses courses, de tout payer, et de prendre en charge, et toi, tu cumules ton salaire. Ça, moi, il va falloir qu'on m'explique clairement. Il est le rôle de la femme parce que quand elle travaille, elle est là aussi pour aider le mari. Et moi, j'insiste. Et si les sœurs, elles m'écoutent, je tiens vraiment à leur expliquer que quand on partage, et dans ce cas-là, si t'es pas contente, bah, tu restes au foyer. Mais tu ne peux pas te permettre de dire, je veux travailler, mais attention, hein, je vais pas partager parce que c'est toi qui es responsable de la maison. C'est ton mari quand même.
Sachant que, là où je te rejoins en plus, c'est que, ces heures où tu travailles beaucoup, parce que souvent quand tu gagnes bien ta vie, c'est que tu travailles beaucoup, c'est du temps que tu mobilises pas sur le foyer. Donc ton mari fait probablement preuve de rahma envers toi en acceptant que tu te décharges d'une part de ta responsabilité. C'est important que les sœurs se disent, en fait, il faut pouvoir trouver un compromis des deux côtés. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus.
Oui, mais tu peux aussi être épanouie tout en travaillant et gérer ta famille.
Le contraire aussi.
Et le contraire aussi, tu peux être aussi épanouie en restant femme au foyer. En fait, il y a pas. Ça dépend de la sœur comment elle est, ça dépend de sa vision, du frère aussi, de comment tu vas fonder ce foyer là. Et c'est les deux qui doivent parler de ça. Si la sœur elle voit qu'elle va pas être à l'aise de rester à la maison, moi je respecte et le frère doit respecter ce. C'est après ils s'entendent ou ils s'entendent pas de toute façon. Mmh. Mais au moins. J'insiste sur ce point, on a eu un cas d'un frère, pendant 8 mois, il discutait avec la sœur, et il donne pas de nouvelles sur le... Et le débat de rester au foyer, il entend pas, il le dit pas. Il dit pas que je veux que tu restes au foyer. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un point où j'ai oublié, j'insiste. Quand tu m'avais dit quel est le moyen pour qu'on puisse leur donner des recettes, il y a aussi le fait de ne pas rester trop longtemps sur cette rencontre. Quand on rencontre un frère ou une sœur, je crois qu'il faut écourter avec les vraies questions. Et ça, c'est le message que je souhaite passer. Oui. Les vraies questions, au bout d'un mois, deux mois, voilà, les choses sont claires. Oui. On va à l'essentiel.
Absolument.
Voilà ce que je veux. Dis-moi ce que tu veux. Ça marche, c'est très bien. Ça marche pas, au revoir. Oui. Qu'Allah t'aide et qu'Allah m'aide aussi et qu'on avance sur peut-être, je sais pas, un autre maktoub dans tous les cas. Mais ne pas attendre avec espoir. De toute façon, il va changer ou elle va changer. Et justement, subhanallah, on dirait que pendant, il y a plus de baraka pendant, c'est plus on retarde de oui. concrétiser. Et quand on sait que la sœur, elle pose la question au frère et qu'elle lui dit, écoute, moi, je suis prête. Qu'est-ce que tu souhaites? C'est quoi l'objectif de ces rencontres? Quand tu vois qu'il est hésitant dans ses réponses, il faut fermer la porte et avancer. Absolument. Et rencontrer quelqu'un d'autre. Et ne pas Absolument. Attendre avec espoir celui-là qui va venir un jour ou l'autre, parce qu'il ne viendra pas. Parce que s'il était intéressé de venir, il va te le dire. Au bout de 3 ou 4 mois, il va quand même faire des nuances en disant, écoute, moi, si je suis là, je veux pas le haram. Mais en tout cas, je suis là pour un objet clair, c'est le mariage.
Et puis, on en revient au tawakkul ala Allah, en fait. si au bout de quelques mois, ça s'est pas débloqué, il faut savoir se dire qu'est-ce qu'Allah essaie de me dire, parce qu'Allah il facilite. Donc si vous n'êtes pas facilité au bout de plusieurs mois, et je ne juge personne, hein, moi c'est des leçons qu'Allah m'a apprises dans ma propre vie. Je suis passée par là, et aujourd'hui je l'ai vu en fait. On attend 8 mois, 10 mois, et un jour on se réveille, on se dit mais on fait la prière de consultation, on se dit mais en fait c'est limpide. Ça fait 4 fois, 5 fois je fais la prière de consultation. Ça c'est pas débloqué. Et Madina, Allah il est en train de te dire non là. C'est pas compliqué en fait. Donc parfois il faut savoir aussi se dire ça. J'avais une dernière question Zahra, notamment pour toi, parce que tu sais, tu l'as dit plusieurs fois quand tu parlais des célibataires et de leurs attentes, tu disais c'est pas ça le mariage. Tes enfants sont grands, tu es dans le mariage depuis longtemps, donc je profite de la joie et de l'honneur que tu nous fais d'être avec nous pour te demander c'est quoi le mariage.
Oh, c'est une bonne question ça. Écoute, il y a des hauts et des bas dans le mariage, faut pas croire. Mais après, il y a une confiance, il y a l'amour quand même, c'est important. Et il y a le fait de se dire, je suis là pour un foyer, pour me battre ensemble, pour se battre pour ce foyer. En dehors de, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur plein de sujets. Mais il est où le problème si on n'est pas d'accord sur les sujets? Je vais pas étaler ma vie privée, mais sur plein de sujets, moi je suis pas d'accord avec mon mari. Au niveau politique, c'est à l'ouest, c'est le nord et le sud, quoi. Et alors, il est où le problème? Ça fait que des étincelles, et puis qu'on n'est pas d'accord, et puis, je me lève et je me... Et c'est pas pour ça. Ça veut dire qu'en fait, si je reviens à ce que j'avais fait la rencontre, rappelle-toi de la rencontre quand j'ai parlé de la présentation. Rappelle-toi, tu te rappelles de la présentation, parce qu'on forçait la personne à se marier, elle avait pas le choix. Là, c'est des rencontres, donc on rentre dans les critères et on idéalise et on cherche les critères qui vont bien, même s'ils sont irrationnels. Mais le mariage, c'est ça. C'est la simplicité et l'équilibre. Et l'équilibre dans l'islam, je pense que c'est la bonne méthode pour démarrer, tawakkul Allah bien sûr, et l'équilibre de se dire je suis pas là, je suis pas avec le parfait et je suis pas parfaite. Et quand on a justement cette symbiose de se dire il y a un amour, on est là pour se battre, et je dis bien on n'arrête pas une relation facilement parce qu'on n'est pas, on s'entend pas sur tel point. Et c'est le cas, c'est pour ça qu'on a beaucoup divorcé en fait. Parce que aujourd'hui le divorce, il est très facile. Ça veut dire on prend la décision. Là t'as peut-être pas, là sur ça on n'est peut-être pas d'accord. J'ai essayé de voir si tu peux changer, mais je vois que tu changes pas. Mais elle a pas besoin de changer et tu n'as pas, et le frère aussi n'a pas besoin de changer. Sur des fondamentaux, bien sûr, il y a pas photo. Mais sur les autres aspects de la vie, je respecte et ça peut être que bénéfique finalement, parce que c'est bénéfique aussi pour les enfants, parce que je crois que les enfants quand ils voient que les parents ils ont pas les mêmes idées. Moi, mes enfants, ils savent qu'on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes états d'esprit. Mais alhamdoulilah, on est là. Et on les a éduqués. Alhamdoulilah, on les a bien éduqués. Et c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas de recette de mariage. Mais il y a aussi l'entente et tawakkul Allah et l'amour d'Allah et justement être protégé par Allah et la simplicité et se dire, il y a toujours des bas. Il y a toujours des désaccords. On n'est pas des anges. Et ne pas mettre la mèche quand ça va pas dans un couple, c'est pas la peine de rajouter. Et surtout, ça c'est le prophète qui nous l'a dit clairement, on raconte pas ses histoires aux autres. Sa vie privée, ça reste sa vie privée. On n'est pas obligé d'étaler sa vie privée parce que de toute façon, tu auras que des ondes négatives. Et on en a parlé tout à l'heure pour les célibataires, de se dire ah oui mais c'est pas normal ce qui te fait. Et tout de suite, ça peut aller très très vite que la sœur prend la décision et elle part. Et le frère, pareil. Il suffit qu'il soit entouré d'un frère qui justement n'apporte pas la sagesse. Je dis bien la sagesse de dire, de toute façon, ça passera, t'inquiète pas. Eh ben, il y a pas ces paroles-là de sagesse. Je pense qu'elle est peut-être pas faite pour toi. Hein. Peut-être que tu seras mieux si t'es célibataire. Et il y a tellement de choses à dire, mais en fait, subhanallah, il faut le tawakkul Allah, il faut l'amour et il faut la simplicité. C'est surtout ça.
J'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. La première chose, tu disais qu'il faut un équilibre. T'as pas précisé, mais moi, je dirais qu'il faut un équilibre entre les bons moments et les moments un peu plus difficiles. Yasmine, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve que quand tu es célibataire, vraiment, tout paraît flou, quoi. Moi, je j'arrivais pas à comprendre quand j'étais célibataire les gens qui disent « Oh, mon mari, il m'énerve. Et, mais je reste avec lui. » Je disais bah, « Pourquoi tu restes alors ?» Je n'ai pas compris. « Ah, parce que quand même, je l'aime bien. » Mais du coup, j'arrivais pas à comprendre. Bon, je suis mariée depuis très peu de temps. Hein, mais ce que je comprends, c'est que effectivement, tu peux tout à fait être avec une personne que tu agaces, parce que ça commence par soi. Ça aussi, il peut t'épuiser sur certaines choses, mais ça remet pas en question, comme tu l'as dit, les fondamentaux. La deuxième chose aussi, c'est que c'est parce qu'on s'agace qu'on va apprendre de moins en moins à s'agacer. Comme tu l'as dit, on n'est pas parfait. Mais en fait, il faut vraiment prendre l'imperfection comme un cadeau. C'est très dur. Mais de se dire que c'est en cheminant dans nos imperfections qu'on va se rapprocher de ce point-là. Et le mariage, ça sert à ça. Une autre chose sur laquelle je voulais rebondir et que tu as dit, c'est que tu disais il faut pas raconter sa vie privée. Alors, je te rejoins dans les grandes lignes, mais je pense que si on a quand même ne serait-ce qu'une personne sage, tu l'as dit, hein, sage, à qui parfois on peut confronter, parce que parfois on peut se sentir seul et ça peut vraiment, surtout au début du mariage, on ne sait pas comment communiquer. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris sur le tard. C'est qu'en fait, quand tu arrives dans le mariage, tu ne sais pas communiquer. Donc, en fait, c'est difficile de dire tes doutes, tes peurs. Tu vois des choses, mais tu n'arrives pas à les expliquer. Et tu ne sais même pas d'ailleurs ce qui se passe dans toi. Parce qu'en fait, tu es une nouvelle personne aussi. On parle d'un bouleversement quand on devient maman. Mais quand on devient une épouse, quand tu deviens un époux, c'est un bouleversement aussi. Et parfois, avoir au moins une personne auprès de qui on se dit « Franchement, là, j'ai du mal. Là, je ressens ça. » Et la personne, si elle vous aime, file là, elle va jamais vous dire, oh, bah, dis donc, il a vu son mari. Bah, donc, ta femme, elle te fait ça. Ah, bah, moi, si j'étais toi, j'aurais divorcé. Mais tu l'as pas encore divorcé? Bah, je sais pas ce que t'attends. Je pense que si on choisit la bonne personne, ça permet de pas souffrir parce que parfois, on souffre vraiment quand on laisse des choses à l'intérieur de nous. Voilà, c'était.
Bah, la bonne personne, déjà, c'est le apporter. Modèle pour ceux qui ont des mamans. C'est les mamans. Je te parle pas, j'idéalise pas les familles parfaites. Mais quand on a une maman, on s'approche de la maman, on demande des conseils. Et comme tu dis, c'est étonnant. Quand on arrive, on est belle, on est avec l'époux, on comprend pas comment ça se passe. C'est nouveau, c'est une nouvelle vie. C'est vrai. Mais on peut aussi demander conseils à une tante avec qui on s'entend bien, avec une personne qui est mariée. Il y a. Je dis encore une chose qui est très importante. Il y a la mosquée aussi, et on peut avoir des sœurs d'un certain âge qui peuvent nous orienter, qui peuvent guider, qui peuvent. Nous, on aimerait faire ça d'ailleurs, d'encadrer des sœurs nouvellement mariées pour qu'on puisse l'aider, parce que c'est nouveau pour elles. Je dis pas que c'est parfait pour toutes les familles, mais au moins quand on n'a pas de famille, on a quand même des amis proches. On peut trouver des amis proches, et justement, c'est l'entraide. Je rebondis encore sur le mot entraide de la mosquée. Cet espace dédié pour l'entraide entre nous.
Absolument.
Pour éviter les divorces, d'ailleurs, pour éviter les divorces.
Absolument. Yasmine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la question? Parce que je t'ai posé la question, mais je sais pas dans quelle mesure tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à la perception des célibataires sur le mariage et sur quelque part l'impact que ça a dans notre recherche d'époux ou d'épouse.
Oui, c'est vrai qu'en fait, en tant que célibataire, c'est vrai qu'on a cette image du mariage qu'on comprend pas trop. On a nos amis qui nous disent c'est compliqué, ça demande beaucoup de patience, je le supporte plus. Donc d'un côté on se dit que c'est la moitié du deal, donc c'est quelque chose qu'on a envie d'accomplir, mais d'un côté on a cette crainte parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup de concessions, beaucoup de souffrances, beaucoup de patience, beaucoup d'interrogations. Donc finalement on sait pas trop dans quoi on met les pieds, tout simplement. Mais d'un côté, on a quand même de beaux exemples autour de nous, que ce soit nos parents, nos sœurs, nos amis. On se dit bon, c'est quand même pas que des mauvaises choses en fait. C'est vrai que généralement c'est les personnes pour qui ça se passe pas très bien qui ont tendance à plus parler de leur expérience, alors que les personnes pour qui ça se passe très bien, c'est elles qui en disent le moins.
C'est vrai. Elles partagent pas forcément la joie.
C'est ça.
C'est vrai. Elles partagent pas forcément ce bonheur de dire non, je suis heureuse.
C'est pas par égoïsme, mais je pense que c'est peut-être par peur.
Oui, c'est vrai, peut-être.
Par peur de que ça s'évapore, peur du mauvais œil, peur de je sais pas. Hein, c'est des suggestions que je pose. Mais je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de notre conversation, Inch'Allah Ta'ala, c'est que des personnes célibataires, il y en a. Il y a des viviers. Je ne dis pas que c'est facile de se marier, mais par contre, en vous entendant, je suis encore plus convaincue du fait que on se doit de refaire confiance à Allah et de rentrer dans des présentations en se disant, Ya Allah, je m'ouvre à toi. Au-delà de, ne voyons pas la personne, voyons Allah, voyons un moyen de se rapprocher de lui. Et si vraiment en face de nous on a un frère ou une sœur, on se dit non là c'est trop différent de ce que je suis, c'est trop différent de mes valeurs. Moi je c'est vraiment un point sur lequel j'insiste beaucoup. Concentrons-nous sur les valeurs, parce que les qualités c'est ce que moi je veux, c'est lui, c'est moi. Les valeurs c'est nous, c'est des valeurs communes. Donc essayons toujours de garder, quand on fait ces présentations-là, ne regardons pas sa marque de chaussures, ne regardons pas sa manière parfois de parler, sauf si vraiment, je sais pas moi, il a une manière de parler qui est trop éloignée de la nôtre. Peut-être qu'effectivement, ça veut dire que même son mode de vie est trop éloigné du nôtre. On peut entendre ça. Ça aussi, ça fait partie des valeurs. Mais en tout cas, de se rappeler que, essayons de voir et de nous rappeler qu'on se marie pour Allah. Donc, on doit faire aussi confiance à Allah. Et ça nous rappelle aussi que si on veut avancer vers le mariage, il faut contrer cet individualisme dans lequel on nous fait naître. Aujourd'hui, on est dans des sociétés individualistes. On nous fait évoluer. Parce que tu disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure, Zahra. Tu disais il y a un copier-coller entre Netflix et la vie. Vraiment, si on veut, je pense, réussir se marier et réussir son mariage, il faut vraiment faut prendre Netflix et faut le jeter à la poubelle. Arrêtez vos abonnements, les gens. Vraiment, je vous le dis franchement, parce que ça nous rend malheureux profondément. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Je veux pas dire que ça apporte rien. Le divertissement, c'est humain, mais ça apporte et ça fait plus de mal que de bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose, mes chères sœurs Yasmine et Zahra?
Moi, j'insiste encore sur Netflix. Avec le temps perdu sur Netflix, à mon avis, le frère et la sœur, elle a tellement de choses à faire. Il y a des associations qui ont besoin pour qu'on puisse avancer pour cette communauté. Et croyez-moi, avec le temps que je vois passer devant les séries, il y a de quoi faire de très beaux actions pour notre communauté. Et crois-moi, Madina, la communauté, elle a besoin de beaucoup de choses.
Oui. Et Allah, il nous le rend en plus. Enfin, moi, quand on fait pour nos frères et sœurs filets, Allah, il agrée ce qu'on fait. Il nous donne encore plus vite ce qu'on demande. Et ça, faut le garder en tête. Aidons parce qu'on aime nos frères filets, mais aidons parce que ça nous permet nous-mêmes d'avancer dans nos vies, parce que Allah, il nous donne bien plus. Vraiment, tout ce qu'on demande à Allah par la suite, il nous le donne, Inch'Allah Ta'ala.
Ok. Ben, moi, pour conclure, peut-être, à tous les célibataires qui nous écoutent, un conseil, que je peux me permettre de leur donner, c'est vraiment d'essayer de lâcher prise lors des rencontres, si jamais on rencontre un frère ou une sœur, de lâcher prise, de faire confiance en Allah et de ne pas s'arrêter sur les détails, vraiment de partir vraiment pour des critères mais qui sont essentiels. Voilà ce que je voulais dire.
Ben, je crois qu'Yasmine t'a tout dit. Lâcher prise, faites confiance en Allah. Et est-ce que tu peux me permettre de rajouter quelque chose, faire des doigts pour nos frères et sœurs en Palestine? Il faut qu'on leur fasse des douas parce que la situation est très difficile et qu'Allah leur apporte un peu sa miséricorde, Inch'Allah. Et qu'Allah facilite le mariage pour notre communauté, et on a besoin encore et encore et encore de musulmans, Inch'Allah.
Amin. Merci infiniment, notamment pour ce dernier mot, pour toute la conversation, mais particulièrement pour ce dernier mot, parce que tu nous rappelles à quel point nos frères et sœurs, ils souffrent. Et quand on a préparé l'interview, on était déjà justement, enfin nos frères et sœurs en Palestine étaient déjà en grande souffrance. Et je te disais, on s'est posé la question de est-ce que c'est le moment d'enregistrer. Et je trahis pas un secret en se disant que on s'est dit oui, c'est important d'enregistrer parce qu'en fait, le mariage, ça structure la société profondément. Et on vit des moments extrêmement difficiles pour tout le monde, bien évidemment, particulièrement pour nos frères et sœurs de Gaza. Mais ça a des répercussions ici. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, si on veut être fort, il nous faut des foyers qui sont solides. Facilitons-nous le mariage. Facilitons le mariage pour les personnes qui sont mariées et qui ont du temps à consacrer. Facilitons le mariage pour les gens célibataires. Inch'Allah ta'ala.
Inch'Allah.
Merci beaucoup.
Je te souhaite bon courage aussi pour tout ce que tu fais pour cette communauté. Et qu'Allah te récompense pour cette aide, Inch'Allah.
Amin, amin, amin. À très bientôt. Salam alaikum.
Merci beaucoup. Salam alaikum.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre trois possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcasts. Cela aide énormément le podcast à être référencé, et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 euros par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur deux, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.